des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, nous passons cette heure avec Annie Ernaux. Bonjour Annie Ernaux.
Bonjour Christophe Onodibio.
Comment allez-vous ?
Bien.
Merci d'avoir accepté de passer cette heure avec nous. Vous êtes l'une des voix les plus singulières de la littérature française depuis votre entrée sur la scène littéraire avec Les Amours vides en 1974. Vous ne cessez de creuser au plus près de la réalité et de l'histoire collective, une veine qu'on pourrait appeler autobiographique. Alors c'est une expression qu'on pourrait discuter avec vous. Est-ce que ça vous convient ? Vous dites parfois autre chose.
Oui, je dis autosociobiographique. Mais vous savez, en réalité, c'est qu'on me demande au fond, voilà, qu'est-ce que vous faites ? Et je dis, non, ce n'est pas du roman. Alors du coup, toutes les hypothèses, c'est... voilà. Mais moi, je peux dire que non, ce que je fais maintenant n'est plus du tout de la fiction, mais que je creuse effectivement, vous avez raison, la réalité à partir d'un intime, mais d'un intime qui est en relation avec le collectif, toujours.
Toujours, voilà. Exactement. Oui. Depuis La Place, en fait, hein, où vous avez renoncé à la fiction, hein, qui vous a valu le prix Renaudot, jusqu'à Les Années, votre œuvre cardinale, qui se terminait par cette phrase en forme d'art poétique, « Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais, sauver toutes les images qui disparaîtront. » Ainsi, votre ville d'enfance, la Normande Yvetot, le café-épicerie familiale, votre père, votre mère, la maladie, la sexualité, la passion, le mariage sont au cœur de vos souvenirs et donc de votre œuvre littéraire qui se poursuit aujourd'hui avec un nouveau livre, « Mémoire de fille » chez Gallimard, qui a longtemps été ce que vous appelez le texte, je vous cite, le texte toujours manquant, toujours remis, le trou inqualifiable. Et quel est ce texte, ce récit et le commentaire de ce récit ? Eh bien, c'est celui d'une expérience fondatrice, la honte, qui suivit la première expérience sexuelle d'une certaine Annie Duchesne, un été en 1958. Alors, vous en parliez de ce souvenir, Annie Ernaux, en 2005, dans L'usage de la photo.
Oui, mais d'une façon extrêmement allusive.
Je vous cite. À 17 ans, je me suis retrouvé dans un lit avec un garçon toute une nuit. Il y a une expression pour dire exactement la force et la stupeur de l'événement, ne pas en revenir, au sens exact du terme. Je n'en suis jamais revenu, je ne me suis plus jamais relevé de ce lit.
C'était effectivement très fort, hein, mais je crois que là, j'ai résumé l'onde qui s'est propagée sur ma vie depuis cette nuit-là, d'août 1958, où effectivement, je me suis retrouvée d'une façon extrêmement rapide dans un lit avec un garçon plus âgé que moi, de 4 ans, et qui était le moniteur-chef de la colonie où je venais juste d'entrer comme monitrice, mais la plus jeune des monitrices, sans expérience non plus d'ailleurs. Et voilà, c'est cette onde... elle est passée par différents stades. Hein. Alors, vous avez parlé de la honte, mais la honte, c'est l'aboutissement.
C'est les conséquences.
Oui, c'est une conséquence, mais avant d'en arriver à la honte, il y a une foule de choses et au fond, ce livre les explore.
Alors, il y avait eu l'usage de la photo. Il y avait aussi, dans les pages de votre journal, publié en 2001 sous le titre « Se perdre », le même souvenir était aussi évoqué, une formule encore plus lapidaire, avec une image extrêmement forte, très organique. « Souvenir hier soir, j'ai gardé plusieurs mois dans ma chambre à Yvetot la culotte avec du sang de la nuit de C en septembre 58. » Alors, j'ai repensé à un livre d'entretien que vous aviez donc écrit avec Michel Porte, « Le vrai lieu », hein, qui est publié chez Gallimard aussi, où vous déclariez « Il y a plein de secrets dans une vie, l'écriture tourne autour, on y entre ou jamais. » Cet événement, donc l'événement sur lequel vous revenez dans Mémoire de fille, que vous explorez, cette première expérience sexuelle, cette première fois avec un homme à 17 ans et demi, cet événement, pour reprendre le titre d'un de vos livres, était-il un secret autour duquel vous avez longtemps tourné ? Et pourquoi s'est-il si longtemps refusé à l'écriture ?
C'est un secret dans la mesure où je n'en ai jamais fait état, sauf dans mes journaux intimes, ouais, d'une façon tout à fait allusive. Bien. Mais c'était pas ça qui comptait. C'était que je ne savais pas comment écrire, parce que on pense qu'on a des souvenirs et puis que l'écriture va développer ses souvenirs, on va en faire un récit et ça coule de source. Non. Dans la mesure où j'ai toujours senti que c'était quelque chose de fondamental et finalement d'indicible au sens propre, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé là. Et c'était donc comment écrire. Et Mémoire de fille, c'est bien sûr le contenu de ces deux années, notamment de cette nuit-là, mais c'est aussi comment écrire. Comment écrire quelque chose de soi. Comment écrire la vie, finalement.
Mais ça, c'était le cas de vos livres précédents.
Oui,
à chaque fois,
celui-là,
vous écrivez sur le soi.
Ouais. Oui, mais ça, quelquefois, était effectivement un problème d'écriture, presque toujours un problème d'écriture. Les années, c'est un immense problème d'écriture qui s'est résolu. Et plus le temps avait passé, plus, effectivement, il y avait cette profondeur de temps entre la fille que j'ai été et la femme que je suis devenue.
Mais l'expression que j'ai citée, hein, votre expression, Annie Ernaux, de trou inqualifiable est très forte.
Il y a
l'idée d'abîme, oui, et qu'on ne peut pas qualifier, qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas écrire. Hein. Vous parliez d'indicible aussi.
Oui, c'est ça. Et comment j'étais ramenée à la nécessité d'écrire tout cela en regardant, par exemple, des films. Il y a eu Vanda de Barbara Loden. Il y avait un film récent que j'avais vu qui s'appelait Despois de Lucia. Il y avait
l'itinéraire aussi d'une jeune femme.
Oui, c'est ça, qui se trouve piégée, mais de nos jours, il se trouve piégée par un garçon. Donc il y avait à chaque fois une espèce de violence qui m'était faite en disant et moi. Pourquoi je ne la raconte pas, mon histoire ? Elle ressemble, mais elle n'est pas la même. Il faut donc l'écrire.
D'autant plus, vous l'avez rappelé avec ce film d'Espoirs et Lucia, c'est une nuit d'amour qui est filmée et qui se retrouve en fait mise devant les yeux de tout le monde via Internet.
Oui.
Ce qui est frappant, c'est que chez vous, on est en 1958, bien avant tout ça, et on parlait de honte à l'orée de cette émission. Finalement, on est aujourd'hui, vous racontez un épisode des années 58 avec tout ce passif, depuis tout ce qui est arrivé, Internet, les nouvelles communications et le porno.
Oui, et en réalité, on trouve la même attitude masculine vis-à-vis des filles, hein, avec les moyens techniques actuels, mais comme si rien n'avait changé. En fait, rien.
Vous le pensez vraiment, ça, au fond ? La domination masculine est toujours là ?
Cette domination masculine. Alors, quand on dit domination, on voit tout de suite un homme qui bat sa femme. Mais ce n'est pas ça du tout. Je veux dire, ça suinte partout dans la société. Et là, dès qu'il s'agit du sexe, donc la chose la plus importante au monde, il faut le reconnaître, c'est quelque chose de terrible, effectivement.
Vous avez réussi à analyser justement cette importance. Vous dites parfois le sexe, c'est toujours compliqué. Pourquoi cette chose la plus importante, on peut l'expliquer par le fait qu'il s'agit de donner la vie ou pas.
Oui, enfin, c'est quand même ça.
Mais,
hein,
mais pourquoi est-ce que ça reste ce point aveugle, ce nœud de crispation encore aujourd'hui, vous l'avez dit.
Oui, mais je ne suis pas sûre qu'on en finisse jamais avec ça. Voilà. Et il faut effectivement autour échafauder un discours, mais aussi des règles peut-être d'un peu d'égalité, que sais-je. Voilà. Mais bon, mon projet, ce n'était pas du tout d'édicter ces règles, du tout. voilà.
J'aimerais, Nierno, qu'on vous entende lire un extrait de Mémoire de fille. On vous écoute.
Je regarde la photo d'identité en noir et blanc collée à l'intérieur du livret scolaire établi par le pensionnat Saint-Michel d'Yvetot pour le bac, section classique C. Je vois, pris de trois quarts, un visage d'un ovale régulier, nez droit, pommettes discrètes, grand front sur lequel, sans doute pour en réduire la hauteur, retombe curieusement un bout de frange frisottée d'un côté et une mèche en forme d'accroche-cœur de l'autre. Le reste des cheveux, châtain foncé, est relevé et ramené derrière la tête en un chignon. Les lèvres esquissent un sourire qui peut être qualifié de doux ou de triste, ou les deux. Un pull sombre à col officier et manches raglan donne un effet austère et plat de soutane. Au total, une jolie fille mal coiffée, dégageant une impression de douceur ou d'indolence, à qui aujourd'hui, on donnerait davantage que ses 17 ans. Plus je fixe la fille de la photo, plus il me semble que c'est elle qui me regarde. Est-ce qu'elle est moi, cette fille ? Suis-je elle ? pour que je sois elle, il faudrait que je sois capable de résoudre un problème de physique et une équation du second degré. Je lise le roman complet inséré dans les pages des Bonnes Soirées toutes les semaines. Je rêve d'aller enfin en surpatte. Je sois pour le maintien de l'Algérie française. Je sente les yeux gris de ma mère me suivre partout. Je n'ai lu ni Beauvoir, ni Proust, ni Virginia Woolf, ni etc. Je m'appelle Annie Duchesne.
Alors c'est le Annie Duchesne, donc votre nom oui. À l'époque. Vous expliquez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que pour habiter à nouveau l'être que vous habitiez en 58, il faudrait que vous n'ayez pas lu certains livres, il faudrait que vous pensiez...
C'est immense. Ouais. Et c'est seulement comme ça qu'on peut se représenter ce qu'on a été.
Alors comment on fait ? Comment on fait pour faire ressurgir cette fille de l'été 58 que vous étiez, dont vous dites que vous auriez voulu l'oublier, c'est l'expression, et que vous décriviez à la troisième personne comme si vous la regardiez en surplomb ou d'à côté ?
C'est en réalité ce qui a permis pour moi d'écrire ce livre, c'est de dire « elle » pour la fille de 58 et « je » pour la femme qui écrit « là ». Et c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai pu écrire tout le livre, tout le texte, d'essayer au fond ne pas vouloir d'emblée dire « je, c'est moi ». Au contraire, il y avait la fille de 58 qui se tient loin et il y a la femme d'aujourd'hui et tout le travail, ce sera au fond, parce que c'est mon désir très profond, c'est de la rejoindre, c'est d'effacer le bloc de temps qu'il y a entre les deux pour au fond la faire revivre dans sa réalité, parce que là on va parler de réalité aussi. Ce que je cherche, quelle est la réalité de cette fille? Donc il y a son portrait là, la photo, me donne le portrait. Mais...
C'est intéressant. La photo, vous la regardez, photo d'identité, c'est une photo qui est présente, qui existe. En même temps, il est question d'une photo qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photo de cet été 1958. Est-ce que les photos sont justement très importantes ou un élément décisif pour faire ressurgir justement cet être, cette jeune fille de 1958? Je me souviens que dans Écrire à la vie, en fait, le très beau quarto que j'ai avec moi, il y a tout un passage, votre journal, en fait, en photo, depuis les toutes jeunes années jusqu'à aujourd'hui. C'est un journal photo.
Photojournal, je dis, voilà, c'est ça. Mais,
c'est un matériau fondamental.
Oui, mais il n'est pas utilisé de la même façon dans tous mes livres. Il a, c'est tout à fait une autre fonction parce que j'ai très très peu de photos en réalité de ces deux années. Et chacune sera au fond un repère qui signifiera d'ailleurs qu'à chaque fois c'est comme une autre fille. Et d'ailleurs, je parlerai de la fille de S. D'abord, S, la colonie de vacances. Mais ensuite, je parle de la fille d'Ernemont, Ernemont qui est un foyer de jeunes filles à Rouen. Ensuite, de la fille de Londres, dirais-je.
Comme des avatars, en fait.
Oui, c'est le rapport que j'ai avec toutes les filles et femmes que j'ai été.
Alors, vous mêlez au récit de ce morceau de vie, à la description de cette Annie Duchesne, une réflexion sur le processus d'écriture. En quoi était-ce indispensable? Est-ce qu'il n'y avait pas le risque aussi, peut-être, d'alourdir, le risque, parce que ce n'est pas le cas du tout, mais d'alourdir la fluidité du récit, finalement, de commenter l'écriture en train de se faire, l'observation de cette fille, comme en surplomb?
Mais ça m'est apparu comme indissociable du récit. Je me méfie du récit. On est entraîné par le récit et comment ça se passe, écrire? Mais vous savez, j'ai fait la même chose déjà dans La Place, quand je parle d'écrire sur mon père. C'est pareil. Vous savez, il n'y a pas un mystère de... oui, il y a un mystère de l'écriture, c'est vrai, mais pas comme les gens imaginent, je crois, comme ceux qui n'écrivent pas imaginent.
C'est-à-dire quoi? Quand vous dites qu'il n'y a pas de mystère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enthousiasme, disait-on dans l'Antiquité, il n'y a
il y a un Dieu qui entre en nous et qui nous fasse écrire combien de fois. Mais comment trouvez-vous l'inspiration? Ben non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Alors comment ça se passe alors pour Annie Ernaux? Est-ce que ce sont ces photos, non, ces films dont vous parlez, même des films contemporains, alors, qui réactivent un processus neurologique, j'en sais rien, cérébral?
Ça me pousse à écrire en réalité. Ce sont des incitations à écrire. Je parle des films ou de livres comme, je cite, Le Bel Été de Pavese par exemple. C'est Gina qui perd sa virginité. Et les photos, c'est bon, parler un petit peu. Ce qui se passe, c'est trouver comment écrire ce qui ne m'apparaît jamais, en fait, comme une histoire, qui m'apparaît comme une somme de choses qui sont intriquées les unes aux autres. Parce que là, c'est une affaire, bien sûr, de sexe, de sexualité, mais c'est aussi des autres. C'est le monde autour. C'est le monde autour, c'est le lieu où ça se passe. C'est le monde de 58 avec ce que ça suppose comme croyance interdite.
Surtout dans votre famille aussi.
Oui, alors là, voilà, évidemment, ma mère a une peur du sexe qui...
C'est le diable.
Ah oui, c'est vraiment
le
diable.
Vous l'utilisez.
Oui, parce que les garçons, c'est l'autre sexe, l'espèce qui peut tout à fait détruire ce qu'elle considère comme étant tellement important, c'est-à-dire que sa fille, Annie Duchesne, poursuivent une voie qui lui apparaît comme la plus belle, c'est-à-dire celle des études, et une meilleure vie qu'elle a eue. Donc, voilà, il faut écarter tout ça.
Alors, c'est aussi un texte et un processus d'écriture qui questionne sans arrêt, justement, la question de l'État. C'est-à-dire, comment retrouver, je vous cite, comment faire pour retrouver l'imaginaire de l'acte sexuel tel qu'il flotte dans ce moi au seuil de la colonie. Et c'est vrai que ça n'est pas répondu vraiment à la question. Vous l'avez posé d'ailleurs, formulez-vous-même, comment ça se passe? Il n'y a pas de mystère, mais comment on fait justement, et vous parliez tout à l'heure de ce film d'Espoise et d'Ossia, alors qu'il y a eu la révolution sexuelle qui est passée par là, alors qu'il y a eu justement les selfies, les sextapes, comment justement réécrire, faire passer toute cette tension, voilà, liée au sexe, alors que tout ça s'est passé depuis 58?
Oui, c'est l'événement principal, mais c'est un événement aussi qui est sous la peur de la grossesse, par exemple. Donc, comment retrouver cet imaginaire? Et à un moment, je me suis dit que le retrouver, ce serait peut-être dans les filles qui sont sous la même interdiction de faire l'amour, et avant le mariage, parce que c'était ça.
Vous dites, comment ressusciter cette ignorance absolue et cette attente de ce qui est alors tout l'inconnu et le merveilleux de l'existence? Le grand secret chuchoté depuis l'enfance, mais qui n'est alors ni décrit, ni montré nulle part. Cet acte mystérieux qui introduit au banquet de la vie, à l'essentiel, mon Dieu, ne pas mourir avant. Et sur lequel pèse l'interdit et l'effroi des conséquences en ces années auginaux, les pires en ce qu'elles font miroiter la tentation de 8 jours de liberté par mois, juste avant les règles.
Oui. Et voilà, c'est je crois avoir
c'est mythologique,
un peu,
c'est, presque.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, on ne pensait qu'à ça. Enfin, je ne veux pas généraliser, peut-être pas toutes les filles, mais une grande partie.
On continue avec vous, Annie Ernaux. On écoute d'abord votre premier choix musical. Vous avez choisi Michel Arnaud, Zon, Zon, Zon.
Quand je suis devenue belle, quand j'ai eu mes 16 ans, je suis restée demoiselle, mais j'ai eu des amants. J'avais de bonnes têtes, vous étiez bon garçon, m'emmenait à la fête, où me chantait des chansons. Froissez mon corsage et toutes ces choses qui ne servent à rien. Zon, zon, zon. Puisque c'est l'usage voulu toujours aller plus loin. Avec une corde à leur violon. Zon, zon, zon. Besoin qu'on les aime au mes 16 ans. Où son.
Michel Arnaud, Zon, 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 c'est le premier choix musical d'Annie Ernaux. Elle publie Mémoire de fille chez Gallimard. Pourquoi ce choix musical, Annie Ernaux ?
Alors, c'est une chanson qui est apparue en 1958 et qui était très diffusée à la radio. Et c'est justement ce printemps qui précède l'été pour moi. Et cette chanson, au fond, elle porte l'espérance, bien sûr. Voilà, toutes ces choses qui ne servent à rien. Voilà, et les garçons qui veulent toujours aller plus loin. Et c'est en même temps très triste, comme c'est mélancolique hein, comme chanson.
Zon, zon, zon.
Et oui, oui. Donc voilà, c'est vraiment avec, par exemple, une chanson comme ça dont je me souvenais, que je peux me remettre dans ce temps-là. Les chansons sont vraiment un marqueur d'époque, mais autre chose. On s'est dit soi-même dans ces mots-là, quelque part.
C'est-à-dire que la chanson, en réactivant l'imaginaire, oui, vous permet de vous remettre dans cet avatar, puisqu'on parlait d'avatar,
oui,
tout à l'heure, chez,
oui,
Annie Duchesne.
Voilà, c'est un des moyens, mais le moyen le plus sûr, c'est en réalité de se mettre à la table le matin et d'essayer, par l'écriture, par les mots, de rejoindre la fille de 58. C'est ça, c'est un travail.
Oui, mais quels mots ? Quels mots ? Comment les choisir ? Est-ce qu'ils viennent ?
Alors,
comment
là,
viennent-ils ?
Là, je ne peux pas vous dire. Je bute devant quelque chose. Si j'étais consciente, bon, il n'y aurait plus d'écriture, je crois.
Hein. Exactement. Orhan Pamuk, qu'on a reçu ici, évoquait le pouvoir des objets. C'est-à-dire que quand il doit décrire, alors il est dans la fiction, hein, mais quand il doit décrire une femme, par exemple, il a besoin d'avoir, même de toucher, comme Flaubert d'ailleurs le faisait, la robe. Flaubert avait besoin de la chevelure de Louise Collet pour lui écrire. Orhan Pamuk a besoin, par exemple, d'aller acheter même la robe de l'Istanbul des années 50 ou 60 pour pouvoir donner vie à cette créature de fiction, mais qui néanmoins touche de façon très puissante au réel. Vous, donc, c'est par les sons, par les images de l'époque.
Oui, mais c'est quand même le travail intérieur qui suppose une sorte d'ascèse. Hein. Je vis très à l'écart et je ne travaille que quand il n'y a personne dans la maison. C'est un état, l'écriture.
À Cergy.
Hein, Cergy,
ça, toujours,
oui,
dans cette maison.
Oui.
Vous n'avez pas choisi Supertramp, que vous citez en exergue de ce livre, hein, Mémoire de fille. I know it sounds absurd, but please tell me who I am.
Dites-moi qui je suis. C'est peut-être une question absurde, mais ça parcourt le livre, puisque il y a une forme de, justement, de discordance avec les autres, de décalage constant de cette fille avec les autres. Ça s'explique sans doute parce qu'elle est fille unique, qu'elle a vécu dans son milieu clos, le pensionnat, et qu'elle n'est pas, comme je dis, sortie de son trou. Mais peu importe, il y a ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est justement, elle a un désir de retrouver des semblables, des jeunes, qu'elle idéalise. Parce qu'ils viennent du lycée, ils viennent des écoles normales.
Et ça, c'est votre côté, oui, bourdieusien.
Oui, hein, mais c'est réel.
Ça marche toujours, ça, penser les distinctions bourdieusiennes.
Mais bien sûr. Mais bien sûr.
Le milieu est si important que ça.
Oh, écoutez, je je crois que...
Oh, je vous cherche.
Oui, là, vous me cherchez, parce que franchement, c'est évidemment, c'est le premier monde qui vous apporte ou ne vous apporte pas tout ce qui vous permettra soit de reproduire avec quelques changements la condition de vos parents, ou bien de changer, d'avoir plus d'outils en main. C'est évident. Bien sûr que la distinction de Pierre Bourdieu, elle est ancrée dans une certaine époque, mais en changeant les paramètres, c'est la même chose.
La littérature sert aussi à quitter justement son milieu. Il y a de très très beaux passages dans ce livre aussi où vous parlez de vos lectures, mais revient toujours chez vous l'expression aussi culture, la culture dominante en fait, pour quelqu'un d'apparemment ou à l'origine de dominer. C'est pour ça que je vous demandais,
oui,
si ces catégories,
oui, oui,
continuent pour vous.
Oui, effectivement, vous savez, les grandes difficultés que rencontrent des enseignants dans des classes dites difficiles, les difficultés, ce ne sont pas exactement les caractères des élèves ou leur mode de vie, c'est aussi qu'il y a un fossé énorme entre le langage de la maison, le langage entre copains, et il y a les textes. Et ils ne s'imposent pas d'eux-mêmes. Cette croyance que j'ai eue moi aussi quand j'ai commencé d'enseigner, que la beauté elle s'imposait d'elle-même, non. Non, c'est pas une incidente par rapport à mon livre, parce que c'est aussi au cœur du livre.
Bien sûr. J'aimerais qu'on en vienne, Annie Ernaux, au point je ne vais pas dire au point aveugle, mais la fameuse nuit, si vous acceptez d'en lire un passage, donc page 43 de cette mémoire de fille.
Ils sont dans sa chambre à elle, dans le noir. Elle ne voit pas ce qu'il fait. À cette minute, elle croit toujours qu'ils vont continuer de s'embrasser et de se caresser au travers des vêtements sur le lit. Il dit « Déshabille-toi ». Depuis qu'il l'a invitée à danser, elle a fait tout ce qu'il lui a demandé. Entre ce qui lui arrive et ce qu'elle fait, il n'y a pas de différence. Elle se couche à côté de lui sur le lit étroit, nue. Elle n'a pas le temps de s'habituer à sa nudité entière, son corps d'homme nu. Elle sent aussitôt l'énormité et la rigidité du membre qu'il pousse entre ses cuisses. Il force. Elle a mal. Elle dit qu'elle est vierge, comme une défense ou une explication. Elle crie. Il la houspille. J'aimerais mieux que tu jouisses plutôt que tu gueules. Elle voudrait être ailleurs, mais elle ne part pas. Elle a froid. Elle pourrait se lever, rallumer, lui dire de se rhabiller et de s'en aller. Ou elle, se rhabiller, le planter là et retourner à la surpatte. Elle aurait pu. Je sais que l'idée ne lui en est pas venue. C'est comme s'il était trop tard pour revenir en arrière, que les choses doivent suivre leur cours, qu'elle n'ait pas le droit d'abandonner cet homme dans cet état qu'elle déclenche en lui, avec ce désir furieux qu'il a d'elle. Elle ne peut pas imaginer qu'il ne l'ait pas choisie, élue entre toutes les autres. La suite se déroule comme un film X où la partenaire de l'homme est à contre-temps, ne sait pas quoi faire parce qu'elle ne connaît pas la suite. Lui seul en est le maître. Il a toujours un temps d'avance. Il la fait glisser au bas de son ventre, la bouche sur sa queue. Elle reçoit aussitôt la déflagration d'un flot gras de sperme qui l'éclabousse jusque dans les narines. Il n'y a pas plus de 5 minutes qu'ils sont entrés dans la chambre.
Merci Annie Ernaux. Alors, ce passage suit un passage où on parlait de Bourdieu, on parlait de la littérature, où Annie ne connaît l'acte sexuel que par la littérature. En l'occurrence, elle connaît par cœur, je vous cite, le passage des Misérables sur la première nuit de Cosette et Marius. « Sur le seuil des nuits de noces, un ange est debout, souriant, un doigt sur la bouche. L'âme entre en contemplation devant ce sanctuaire où se fait la célébration de l'amour. » C'est avec cette culture-là,
oui,
qu'elle arrive à l'acte.
Absolument, oui.
Est-ce qu'écrire...
cet imaginaire-là.
Oui, qui se catapulte totalement...
Oui, contre le réel. Oui. Et j'ai enlevé une phrase dans ce passage, que c'était « Le réel est un sexe d'homme ».
Pourquoi vous l'avez...
J'ai mis un phallus, je crois même.
Pourquoi vous l'avez...
Parce que c'est une telle confrontation, là. Parce que le corps et le temps ne font plus qu'un. C'est ça, là, l'affaire.
Dans vos livres, vous évoquez souvent la figure de Simone de Beauvoir. En quoi a-t-elle été si importante pour vous, elle qui disait « La première fois, c'est toujours un viol ».
Oui, mais... justement, quand je découvre Simone de Beauvoir avec Le deuxième sexe, c'est-à-dire presque un an après, je suis absolument effarée devant tout ce qu'elle ouvre devant moi sur l'histoire des femmes, sur leur aliénation. Bon, je ne vais pas résumer ici Le deuxième sexe, mais il y a des phrases dont je pense que je ne les ai pas acceptées. Par exemple, lorsqu'elle dit « la première fois est toujours un viol », je ne pense pas à ce mot « viol » parce que c'est ce sentiment de se soumettre à une loi sauvage par laquelle il aurait bien fallu passer un jour ou l'autre.
La loi des hommes.
La loi des hommes, voilà.
Elle était aussi dans le dégoût des règles, hein, par
oui,
exemple.
Oui, c'est ça.
Dans le, là, je parle des règles des
oui, des règles des menstrues. Ce
n'est pas votre cas. La dimension organique du corps, elle n'est pas du tout gommée. Hein, non seulement dans Mémoire de fille, mais dans toute votre œuvre, Annie Ernaux. Le corps est là, toujours. On pourrait même parler d'une mémoire de la peau, en fait, votre façon d'écrire. Annie, qu'est-ce que ton corps dit, d'ailleurs, dit l'un des garçons, pour faire un jeu de mots.
Le jeu de mots sur Annie Cordy.
Mais la phrase est belle. Annie, qu'est-ce que ton corps dit ?
Oui, mais quand j'entends cette phrase, il est évident que je n'en vois pas du tout, je veux dire, l'éventuelle profondeur qui n'est pas dans le propos de ce garçon, bien entendu. Mais le corps, effectivement, va parler après cette nuit, après la fin de la colonie de vacances, c'est que d'un seul coup, redevenu dans le monde, mais aussi un autre monde. C'est le lycée, cette fois. C'est le lycée Jeanne d'Arc de Rouen. Lycée bourgeois de l'époque. À ce moment-là, le corps parle de la façon suivante. Il y a un arrêt des règles. Voilà, la ménorrhée.
Mon sang s'est tari.
Oui, le sang s'est tari. C'est vraiment le terme.
C'est votre expression.
C'est se tarir avec ce blanc des jours qui reste, tout ce qui est le blanc du linge, et manger sans arrêt. Il y a ce terme, on dit maintenant boulimie, mais je ne connais pas. C'est un terme que je ne connaîtrai en réalité que 20 ans plus tard. Et c'est quelque chose de terrible parce que, au fond, c'est la conséquence. Je subis dans le corps et quand cette période de glaciation, comme je l'appelle, va se terminer, le corps, à nouveau, va connaître son équilibre. C'est-à-dire, c'est la fin de la boulimie.
Et c'est l'écriture qui commence.
Oui, et l'écriture commence aussi. Ouais.
Après cette glaciation, oui. Et c'est là que vous commencez à écrire, Annie Arnaud.
Je commence effectivement à écrire au terme d'un processus dont, dans ce livre, je montre continuellement toujours des lacunes, des trous entre les différents moments de l'évolution. Et il y a effectivement un moment où je prends un cahier, un stylo, je vais dans un jardin public en Angleterre où je suis au pair et je commence à écrire.
On voit aussi d'autres conséquences dans le corps après cet élément fondateur, c'est la honte, le sentiment de honte, oui. Que vous explorez. La question de l'Église aussi est là présente, on est presque du côté du blasphème pour la jeune catholique qui retourne en fait à l'Église après cet acte et qu'il dit le Dieu qu'elle supplie n'est que le fétiche de H, c'est le garçon, le vrai Dieu qui s'est détourné d'elle, indifférent à son désespoir, sa misère, qui lui a préféré la blonde. Seigneur, dites seulement une parole et mon âme sera guérie. On a vraiment deux univers qui se catapultent, on est quand même 10 ans avant 68 quoi.
Oui, mais je suis le produit d'une éducation catholique très forte, dont j'ai suivi les préceptes ou pas. Et si je les suivais pas, c'était dans la culpabilité. Et donc, je suis en contact d'un seul coup avec un tout autre monde, qui est un monde donc laïque, mixte.
Communiste aussi. Ces jeunes garçons sont beaucoup engagés.
Il y a pas mal de garçons qui sont effectivement
à gauche.
À gauche. Et donc, j'ai dû penser que le jour où on va chercher les enfants de la colonie, que je n'irai pas pour la première fois de ma vie à la messe.
Oui. Et le 15 août, en plus.
En plus, le 15 août, la fête de la Vierge.
Exactement.
Bon.
Mais je dis ça parce qu'il y a quelque chose quand même, curieusement, pas dans la forme, mais dans le fond, de quasi mythologique, en fait. Dans cet événement fondateur, l'éternelle aussi mythification de la virginité à travers les sociétés, à travers les âges, et qui, vu d'aujourd'hui, lu depuis aujourd'hui, est quand même extrêmement saisissant. On revient à cette question de comment on fait revenir cette mythologie-là. Vous êtes d'accord avec le terme, d'ailleurs ?
Mythologie, je ne sais pas, c'est aussi une sociologie. Parce que...
La mythologie est une sociologie, peut-être.
Oui.
Et réciproquement.
Il y a tout de même, autour de la mythologie de la virginité. Alors, on ne parle pas ici de la virginité des hommes, ce n'est pas le sujet. Mais disons qu'à cette époque, c'était exactement l'inverse, c'est-à-dire les filles souhaitaient mais avaient peur de perdre leur virginité, alors que les hommes étaient enjoints, eux, de la perdre et de faire l'amour très vite, c'est ça. Mais on est là dans ce que vous appelez mythologie, mais qui est aussi ce qui a organisé les sociétés pendant très longtemps. Et voilà, donc c'est pour ça que je bute un peu sur le terme mythologie.
En quoi la honte ressentie que vous explorez est-elle différente de la honte sociale dont vous parliez dans La Honte ?
Oui, parce qu'elle concerne cette honte d'avoir été volage, parce qu'après cet épisode, cette nuit-là, et ce rejet par H, c'est un peu la chanson de Barbara, je m'abandonne dans d'autres bras. Voilà, et cette honte qui va me venir par rapport à Simone de Beauvoir, donc qui me donne la honte, la philosophie aussi, c'est que nous ne devons pas être objets, nous sommes des êtres rationnels, et c'est une honte qui ne concerne en réalité que les filles.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une honte littéraire ? On l'a dit, cette jeune fille arrive avec une connaissance de la vie qui est une connaissance qu'elle a eue à travers les livres. Et au fond, tout ça se fracasse contre le réel, ce sexe d'homme, cette phrase que vous avez ôtée, mais qui est très belle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une honte littéraire ? C'est-à-dire la littérature qui finalement fait honte dans ce qu'elle a peut-être fait faillite dans cette description de ce qu'est la vraie vie, de ce qu'est le réel?
Je ne le crois pas. Je crois que la littérature, quelle qu'elle soit, m'a toujours été un recours.
Pourtant, elle vous avait trahi, là. Marius et Cosette, oui, c'était l'ange qui est
oui.
là.
Oui, oh, il est vrai que là, j'ai abandonné quand même Les Misérables. Hein. Je ne me suis pas du tout... Non, mais je veux dire que... Il y avait tout de même quelque chose. C'est les romans de François Sagan hein, qui exprimaient la plus grande liberté. Mais il ne faut pas oublier hein, que François Sagan était très lu avant 68. Mais ce n'était pas praticable parce que c'était dans un autre monde aussi. C'était un monde bourgeois. Donc, ce n'était pas ça la réalité des filles, pour la plupart.
Pourtant, vous auriez pu comprendre Claudel. Claudel, qui était une lecture, disons, bénie. À l'époque, quand Claudel dit « Il n'y a pas d'autre bonheur pour l'homme que de donner son plein ».
Oui, alors ça, c'était...
Et vous dites « Elle n'a pas compris où était l'obscénité ».
Non. Non. Vous voyez, de la naïveté quand même, ma candeur.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une leçon qui est terrible, qui est de dire que la littérature comprend qu'on adore tous, qui nous a formés, qui nous a fait lire le monde, finalement est en décalage total et a failli finalement?
Non, elle dit autre chose. Mais il est vrai qu'à certains moments, la littérature ne vous est rien. Mais rien. Vous savez, après cette nuit, j'essaye de lire La Condition humaine, je ne comprends plus rien. C'est vraiment, le réel, dans certains moments, est beaucoup trop fort pour que la littérature, tout de même, là je vais en contradiction avec ce que je viens de dire précédemment, mais il est vrai que ça ne vous sert à rien, vraiment.
Vous vouliez écrire, donc après cet événement, il y a donc cette époque de glaciation hein, dont vous venez de parler. Vous vouliez écrire, écriviez-vous d'ailleurs dans vos carnets, pour venger votre race. Qu'est-ce que ça veut dire?
D'abord, hein, dans cette période-là, à 20 ans, quand j'écris ça, c'est que moi, en devenant écrivain, quelque part, je vais effectivement venger l'obscurité dans laquelle mes parents, mes ascendants depuis...
Race, là, c'est les c'est
mes
l'univers...
Mes races, c'était très fort, effectivement. Oui. Ça veut dire que je n'appartiens pas au monde que je fréquente, des héritiers, comme je ne savais pas encore.
Lui.
Oui, encore Bourdieu. Oui, je me sentais... Or, je me sentais or. Et c'est un sentiment qui, je crois, aussi a collé, et dans une certaine mesure, colle toujours à ma peau. Oui.
Toujours ? On ne sort pas de ça ?
Non. Quelque part, fondamentalement, et c'est au fond de mon écriture aussi. Et c'est aussi dans cet orgueil d'une écriture qui ne sera jamais complaisante ni rien. Oui, je pense qu'il y a ça.
Donc vous êtes toujours, après tous ces livres, après tous ces succès, tous ces lecteurs aussi, toujours
vous savez,
dans cette...
Vous savez, ça ne vous accompagne pas quand on écrit.
Mais vous êtes toujours dans cette mission, est-ce qu'on peut dire ça, de venger votre race?
Oui, j'ai reçu, plutôt que mission, je dirais, j'ai reçu un mandat. Mission, ça fait un peu...
Viril.
Oui, aussi, vous tenez, voilà, les missionnaires,
c'était... C'est vrai.
Donc, il y avait des sœurs missionnaires, tout de même. Hein.
Oui. Ouais. Donc, mandat. Mandat donc,
oui.
Et un mandat, pourquoi?
Eh bien, un mandat pour écrire et que cette écriture, ce soit quelque part toujours la hache qui brise la mer gelée en nous, de Kafka. Voilà.
Mais avec toujours Bourdieu derrière le déterminisme, les classes sociales.
C'est pas toujours dans ma tête, mais dans l'observation que je fais à chaque fois du monde ou de moi-même, il faut bien en revenir là.
Et donc, race n'est pas un autre mot pour genre, par exemple. Là, c'est pas l'acte féministe.
Non.
Venger,
race, c'était pas du tout au sens genre. Non.
On va parler du féminisme aussi avec vous, Annie Ernaux. Vous publiez Mémoire de fille chez Gallimard. On écoute votre deuxième choix musical, le sextuor à cordes numéro 1 de Brahms, L'Andante ma moderato, interprété par Ciné Nominé.
Thank you.
C'est l'Andante Moderato du Sextuor à cordes numéro 1 de Brahms. C'est votre deuxième choix musical, Annie Ernaux. Pourquoi d'ailleurs ce choix ?
Mais parce que le film Les Amants a été un tel bouleversement pour moi. Je l'ai vu un ou deux mois après cette nuit-là. C'est deux nuits en réalité. Et c'était bouleversement pourquoi ? Parce que d'un seul coup, j'aurais voulu être cette femme jouée par Jeanne Moreau. Et il y avait la musique de Brahms, donc tout ça était c'était absolument merveilleux. C'était extraordinaire. Et j'aurais voulu pouvoir sauter de mon fauteuil et être dans l'écran. Et cette douleur en ressortant sur le trottoir de Rouen après avoir vu ce film, c'est le paradis perdu. Et Brahms donc est lié évidemment à ce film et dont je ne pouvais pas dire que j'aurais voulu être elle dans ce monde de 1958. Être cette femme libre de son corps, je ne pouvais pas.
Vous publiez Mémoire de fille, donc chez Gallimard, dans lequel vous revenez sur l'été où une certaine Annie Duchesne, Annie D, a fait l'expérience donc de sa première nuit avec un homme. C'est un livre où vous interrogez cette jeune femme dont vous avez habité l'être, c'est votre belle expression. Vous l'interrogez à l'aide de photos, à l'aide de lettres, à l'aide d'images gravées dans votre mémoire. Je pensais, Annie Ernaux, à un passage des années où vous évoquiez Internet. Vous disiez au passé, on évoluait dans la réalité d'un monde d'objets sans sujet. Internet opérait l'éblouissante transformation du monde en discours. Je voudrais vous demander si vous trouvez qu'Internet modifie la littérature. Est-ce qu'elle modifie aussi votre façon d'écrire ? Vous dites qu'on trouve tellement de choses. Vous en parlez d'ailleurs dans Mémoire de fille. Vous retrouvez ce H.
Oui.
Vous tombez sur ces noces d'or, en fait.
Oui.
Oui. Ça modifie.
C'est complètement inattendu. C'est tout à fait par hasard que je tape son prénom et son nom et que d'un seul coup je tombe effectivement sur un article de journal et c'est une chose qui n'aurait jamais pu arriver il y a 15 ans par exemple. Voilà, donc Internet modifie notre vie à tous.
Et donc la littérature ?
Et la littérature, vous voyez, d'abord, je l'introduis, elle joue dans la recherche. Dans ma recherche, Internet joue un rôle. Et dans l'écriture aussi, dans la mesure où, quand moi, j'écris à la main. Mais quand mon manuscrit, je pense qu'il est terminé, je le saisis sur ordinateur. Et là, c'est pas Internet qui joue, mais c'est plutôt la facilité donc de modifier sans arrêt l'écriture, de pouvoir changer, passer un paragraphe à un autre. Mais Internet, ça modifie aussi notre rapport au monde. Continuellement, on cherche quelque chose. On cherche. On est tout le temps en train de chercher, de s'immerger. Et en même temps, on a un savoir qui ne sert sans doute pas à grand-chose. Le savoir d'Internet s'efface aussi vite. On est dans l'instant quand même, vraiment. Donc je pense que ça va changer notre rapport au temps et notre rapport à la mémoire aussi. Parce qu'on se fie à la mémoire d'Internet aussi. Mais on ne sait pas on ne sait pas, on n'est pas capable de mesurer encore tout ce que produit l'Internet et ses technologies sur nous.
Mais quand vous dites l'éblouissante qu'Internet opère, l'éblouissante transformation du monde en discours, la formule était, on aurait pu attendre en images, par exemple, la transformation du monde en images.
Non, je crois que c'est plutôt en discours ouais. Justement.
Et pourquoi ?
Oui, parce qu'on lit bien davantage qu'on regarde des images. Oui, on le regarde, mais il y a cette une transmutation et en même temps, c'est complètement immatériel. C'est virtuel.
Vous imaginez parfois Proust qui aurait eu accès à Internet ?
Non, on peut
pas. Ce qu'il en aurait fait ?
La recherche
du temps perdu.
Il aurait utilisé sans doute Internet, justement,
oui. Exactement, ça ouvre aussi des possibilités. Alors, elle n'avait pas Internet, cette jeune fille. Elle avait le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, on en a parlé. Qu'est-ce que vous pensez, Annie Ernaux, de ces jeunes filles actuelles qui vont aussi lire ces mémoires de filles et qui vont changer totalement d'univers en plongeant dans les années 50
Je ne suis pas sûre que ça ne leur parle pas, justement. Parce que d'abord, cet événement d'être en rapport avec le corps de l'autre de cette façon-là, c'est éternel, ou alors le monde s'arrête. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui va parler aux filles. C'est toujours de se demander avec qui on va passer ce cap. Non, je pense que c'est possible. D'ailleurs, c'est fait déjà. J'ai déjà des témoignages d'une lecture qui transcende tout à fait les époques. Et notre époque présente les mêmes caractéristiques d'hégémonie masculine, dirais-je. Parce que le mot domination, justement, on l'a dit tout à l'heure, c'est un côté comme conscient. Voilà, c'est vraiment les hommes qui ont décidé. Non, ils n'ont rien décidé. Ils n'ont rien décidé. Ils se coulent dans un monde qui est déjà là et qui leur est favorable à tous, même ceux qui en profitent le moins pour différentes raisons. Mais il y a cette préséance, aussi bien dans le domaine littéraire, partout.
C'est en train de changer, regardez. On est là pendant une heure avec vous, Annie Ernaux. Mais c'est curieux que vous soyez au fond, et ce que j'aimerais comprendre, sur ce schéma-là, puisque vous-même, d'ailleurs, aviez été accusée de n'être pas assez féministe quand vous aviez écrit sur votre père, et votre père qui ne correspondait pas à ces schémas hyper virils. Et on vous a reproché, à l'époque, de n'être pas assez féministe.
On m'a reproché le livre « La femme gelée ». En me disant que les femmes, maintenant, elles n'étaient pas ce que je décrivais. Et effectivement, j'ai toujours été un peu en porte-à-faux avec le féminisme qui était dominant. Il y avait une forme du féminisme dominant dans les années 70, qui m'apparaissait à cette époque comme un féminisme de femmes avec des pères dominants, effectivement, qui subissaient la loi du père, alors que mon père à moi était justement pas dans ce cadre-là. Et pour aller vite, je dirais que je sentais comme un féminisme de femmes blanches et bourgeoises. Hein, voilà. Mais avec tout, évidemment, moi j'ai milité pour des formes de libération des femmes, avec pour la contraception et pour l'avortement. Cela dit, j'avais un petit problème. Et je suis maintenant plus encline à prendre en compte dans mon féminisme, j'aime pas dire ça, mon féminisme.
Oui, voilà. Vous le dites.
Oui, mais je le dis quand même. Bon. De prendre en compte d'autres contraintes qui pèsent sur les femmes et qui, au fond, se mêlent à la, voilà, disons des contraintes de classe, des contraintes de culture, et qu'il faut, en quelque sorte, les prendre en compte et ne pas juger d'une façon radicale. Vous voyez que là où je veux en venir.
Je vois, mais
vous
je
voyez
vais
vous un
laisser
peu, y venir. C'est-à-dire ce féminisme qui décide que les voiles pour les femmes musulmanes, c'est à proscrire, que c'est le signe de l'absolue soumission, et avec une arrogance, quelque part. Une violence aussi. Une violence, alors là, pour moi, elle fait écho à cette violence qu'on me faisait quand on se moquait de la fille de l'école religieuse, qu'on lui chantait « Ave, Ave le petit doigt » au lieu d'Ave Maria. Bon, tout ça qui était très violent. Et je peux comprendre de l'intérieur. Alors, cette façon d'agir... C'est exactement, alors là on va en termes, je vais dire parce qu'économique, c'est contre-productif. On vous dit que vous n'êtes qu'un voile au fond, c'est ça, vous êtes essentialisé au voile. Eh bien, je veux dire, on ne veut absolument pas le lâcher, justement. Ça.
Mais c'est étonnant que vous disiez ça, parce que vous faites le parallèle, d'ailleurs, on le comprend bien, entre votre propre jeunesse religieuse et ses prescriptions religieuses. Le voile n'étant pas un vêtement comme un autre. C'est un.
Je crois qu'il est.
C'est pas la mini-jupe. Quand on dit. C'est vrai que quand on entend qu'il est certaines figures du féminisme qui disent qu'il n'est pas plus aliénant que la mini-jupe, c'est quand même difficile de comparer. Un simple vêtement, disons, ornemental et le voile qui est lourd d'autres connotations,
d'autres symboliques.
Non mais attendez,
la mini-jupe, elle est lourde aussi d'autres connotations. Pourquoi on porte une mini-jupe et pourquoi à un âge on porte une mini-jupe et pas à un autre? Hein,
je ne sais pas qu'il y avait des âges.
Mais non, c'est qu'il y a bien d'autres choses en jeu, voilà.
Mais justement, la religion revient en force en ce moment. Est-ce qu'elle était, elle était très importante pour vous? Qu'en reste-t-il? Est-ce que vous êtes aussi finalement, grâce à la littérature aussi, vous en êtes peu à peu libéré?
C'est du même ordre, je pense. Peut-être que l'héritage de honte sociale ou l'héritage de mon premier monde, c'est que je ne peux pas faire abstraction d'une forme d'idée de sacrifice. Il y a quelque chose qui est en moi, peut-être comme un désir de faire mon salut. Voilà.
C'est-à-dire, là, c'est encore alors, un terme.
Oui, mais c'est un terme, bien sûr.
Un terme
mais
religieux.
C'est le ferment salut, ferment salut.
Eschatologique.
C'est un terme eschatologique, mais c'est de faire mon. Alors que je pense que c'est le néant complet qui nous attend. En même temps, je parle de salut, c'est au fond, c'est d'écrire et d'écrire d'une certaine façon.
Vous n'êtes pas, vous, quand même, un petit peu choqué par l'expression mode pudique pour évoquer justement ces vêtements islamique.
Au fond de moi, je me demande si réellement je suis choquée tout simplement par ce terme-là, dans la mesure où cette idée de pudeur ou d'impudeur, elle est ancrée dans la société, vous savez. Elle est ancrée. J'en ai souffert lorsqu'on m'a dit que je manquais de pudeur dans mes textes. Et c'est pas vieux. Ça date même encore, je dirais, de 10 ans, lorsque j'ai publié avec Marc-Marie, l'usage de la photo. Voilà, on a, peut-être plein de gens ont pensé ça, qu'il y avait une impudeur pour les femmes. Donc, alors maintenant qu'on s'acharne à voir qu'au fond, il y aurait les femmes d'origine, enfin, les femmes blanches françaises, et qui sont censées ne pas avoir de croyances, etc., il y a l'islam. Parce que ça, ce qu'on est en train de faire avec tout cela, cette hystérisation autour de ça, c'est tout simplement la forme que prend un repli sur soi et un rejet des autres, et en particulier de l'islam. Donc, pourquoi, et c'est là où je m'insurge, c'est qu'une fois de plus, c'est encore les femmes qui sont la cible.
Et le mot pudeur, souvent, est utilisé par des hommes,
par les désigner.
Mais c'est pour ça que c'est étonnant. Je me dis, quand je lis, quand je relis toute votre œuvre et que ce sentiment de pudeur, ce mot pudeur dont vous n'avez pas voulu, qu'on vous parle de pudeur ou d'impudeur à propos de vos textes, où vous osiez parler de sexualité, vous osiez mettre des mots sur des notions, c'est vrai, dont on ne pensait pas un jour que des femmes mettraient des mots sur elles. Et donc c'est pour ça que je m'étonne, en fait, que ce mot pudeur, aujourd'hui, qui ressurgisse, vous n'ayez pas envie de le congédier dans un geste révolutionaire, féministe.
Non, je veux dire, en plus, c'est quelque chose de totalement économique. Hein. Voilà, ce sont les grandes firmes. Elles n'ont pas du tout de croyances, hein, les firmes. Hein. Alors, donc c'est purement...
Marketing.
Marketing.
En 1989, vous écriviez que la littérature pouvait contribuer à modifier la société. Est-ce que vous le pensez aujourd'hui ?
C'est une espérance que j'ai toujours en écrivant. Mais oui, mais ça n'a jamais un effet immédiat. C'est très rare hein, qu'un livre ait un effet immédiat. Mais du moins, je pense qu'il vaut mieux que j'écrive en ayant cette pensée de transformation de la société plutôt que simplement de vouloir la distraire.
Vous croyez en ses armes, en son pouvoir, encore intact. Oui. Quel conseil pour terminer, Annie Ernaux, donneriez-vous à un jeune écrivain, une jeune... D'ailleurs, vous dites quoi, vous, une jeune écrivaine, écrivain, qu'est-ce que vous pensez de ce débat aussi?
C'est très difficile aussi, parce que écrivain, non, écrivain, il y a 20, hein. Donc écrivaine, veine, ça ne devrait pas être...
On le féminise pour
que,
vous
non, je pense qu'écrivaine finira par s'imposer. C'est comme peut-être pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est que les femmes écrivent et surtout soient visibles. Et ça, c'est un autre problème. C'est l'invisibilité des femmes dans la littérature
contemporaine.
Oui. Si, mais elles
Marie
sont.
Marie Ndiaye, Marie Dariussec, Mélisse de Kerangal,
Annie
Ernaux.
Oui, non, mais.
Ça y est, vous.
Oui, mais il y a. OK, mais il y a une forme tout de même. Très profonde de, au fond, c'est quand même pas comme Michel Tournier, Michel Butor, allez, allons-y.
Marguerite Duras.
Oui, mais une comme ça, il y en a une comme ça.
Marguerite Yourcenar.
Non, mais une.
Simone de Beauvoir.
Voilà, ce sont des icônes, là, les icônes.
Et donc, quel conseil vous donneriez à une écrivaine ou un écrivain aujourd'hui qui voudrait, peut-être après une période de glaciation, comme celle que vous avez connue, ou pas, d'ailleurs, se lancer dans l'écriture?
Écoutez, moi, je crois qu'il faut d'abord beaucoup lire. C'est comme ça, moi, que je suis aussi... me suis mise à écrire. C'était à force de lire, de me dire, pourquoi pas moi? Mais très souvent, des écrivains croient très jeunes qu'ils ont quelque chose à dire. Mais on a trop de choses à dire au départ. Et c'était mon cas d'ailleurs, on a trop de choses à dire. Et qu'il faut prendre le temps aussi d'une forme de maturation. Il ne faut pas croire que le premier texte qu'on écrit, c'est celui-là, on va entrer par la grande porte dans la littérature. Il faut beaucoup d'humilité, quelque part.
Vous avez été d'ailleurs refusé, votre premier manuscrit au Seuil.
Oui.
Ça a entamé votre orgueil. Vous parliez d'un orgueil à l'époque.
Oui,
c'est un mot qui revient souvent.
J'ai pensé immédiatement que j'allais recommencer. Et si je n'ai pas recommencé, ce n'était pas du tout par atteinte profonde à un moi qui n'existe pas forcément, mais plutôt par des empêchements matériels, très profondément matériels. Obligée d'avoir un métier et en même temps de m'occuper de mes enfants dans un monde où les pères, justement, à cette époque-là, se souciaient fort peu de leur progéniture.
Donc votre conseil, Annie Ernaux ?
Persévérer. Voilà. C'est la persévérance dans ce qu'on désire, parce que c'est comme ça qu'on est heureux.
Merci, Annie Ernaux. On se quitte avec votre dernier choix musical. Vous avez choisi, c'est Billie Holiday, Gloomy Sunday. Pourquoi ce choix ?
Parce que j'ai découvert que Billie Holiday était venue à Paris et qu'elle était dans un état absolument pitoyable. À la même époque où moi-même, j'étais dans un grand malheur.
Sunday is gloomy. My hours are slumberless.
Merci Annie Ernaux.
Merci à vous.
Mémoire de fille est publiée chez Gallimard. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, Anne-Sophie Ladonne et à la technique Manuel Couturier. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette heure avec Annie Ernaux. Merci encore, je vous retrouve dès lundi pour une autre émission, Le Temps des libraires, à 10h55. Gloomy Sunday.